BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Les marchés dans l'attente de la reprise des négociations entre les Américains et les Iraniens. Côté pétrole, le baril de Brent se stabilise ce midi autour des 96$. Stabilisation également du côté du marché obligataire. Avec un 10 ans français autour des 3,66% et un 10 ans allemand toujours juste au-dessus des 3%. Sur le front diplomatique, les États-Unis ont donc annoncé discuter sur la tenue d'une deuxième session de négociation. Avec l'Iran, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est dite optimiste sur les chances d'un accord. Côté iranien, on parle de plusieurs messages échangés avec les autorités américaines via le Pakistan. Téhéran insiste tout de même sur sa volonté de poursuivre son programme nucléaire civil, mais ouvre la voie à un débat sur le niveau et le type d'enrichissement d'uranium. Parallèlement, sur l'autre front de la guerre au Moyen-Orient, on apprend ce midi que le Premier ministre israélien va s'entretenir avec le président libanais. Information des autorités israéliennes qui ne précisent ni la date ni le lieu pour ces échanges. Enfin, l'actualité des entreprises marquée par le plan de relance de Kering, présentation aujourd'hui à Florence en Italie, qui à ce stade ne semble pas convaincre les investisseurs avec un titre encore en recul de plus de 2,5% ce midi après la chute de plus de 9% hier. Sachez que Luca De Meo, le directeur général de Kering, sera l'invité exceptionnel de la matinale de BFM Business demain matin à 8h10. Interview depuis Florence avec Pauline Tadevin. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier au sens large, des témoignages terrain de vos métiers. Aujourd'hui, focus sur l'architecture d'intérieur et on va voir que même lorsque les clients ont les moyens, c'est pas toujours simple de travailler. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Hier, vous aviez notre duo de choc de l'assurance de prêt. Aujourd'hui, notre duo de choc de la fiscalité. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Amandine Marotto, fondatrice et PDG d'Atelier Compostel. Bonjour Amandine.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors, je le disais en préambule, être architecte d'intérieur, c'est un métier génial. Quand en plus le client a les moyens, c'est un métier super génial. Encore faut-il savoir ce qu'il veut, ce client bien pourvu.
Et oui Marie, c'est une question qui est passionnante, d'autant que nous avons adressé un sujet récemment avec une clientèle à laquelle nous n'avons pas accès. C'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons avec leurs représentants, ce qui nécessite quelques particularités dans le traitement de l'information et dans la compréhension de leurs demandes.
Mais parce qu'on est quand même sur des gens qui ont envie encore de garder l'anonymat, c'est un peu ça le sujet. Donc vous connaissez l'enveloppe, exactement, mais vous savez pas ce qu'ils veulent en fait, c'est ça le sujet.
Alors nous avons l'intention, nous avons des équipes très structurées, qui connaissent très bien leur mandant. En revanche, nous n'avons pas la personnalité derrière la demande. Bah, et donc, ça implique une granularité dans la communication de l'information.
Bon, concrètement, ça veut dire que vous bossez comment, Amandine? Parce que moi, ça me passionne. C'est-à-dire que vous allez faire quoi? Vous allez proposer quoi? Il va falloir être hyper pédago, expliquer le sens global, rentrer dans les détails. Comment ça se passe?
Oui, ça veut dire qu'on a des petites astuces que je vais vous partager. D'abord, tout ce que l'on va proposer et demander, nous allons faire en vidéo. C'est-à-dire que nous allons préparer des petites séquences que nous allons transmettre aux représentants de nos clients, qui vont eux-mêmes ensuite l'expliquer à ces personnalités qui sont soit publiques, soit juste extrêmement discrètes parce que très fortunées, notamment. Et ce format vidéo, en fait, est la meilleure façon pour nous d'éviter le via-via et l'espèce de téléphone arabe. Donc, c'est la première astuce. La seconde est que pour tout ce que nous proposons d'un point de vue matérialité et image, nous préparons par espace des petits mock-ups, mais dans des boîtes.
Des quoi? Alors, des quoi, Amandine? Parce que
les mock-ups dans le monde des archis. Ce sont des présentations qui regroupent les matériaux et les images. Donc, nous allons regrouper par espace tout ce que nous leur proposons, expliquer en vidéo. Donc, les représentants de nos clients n'ont plus qu'à transmettre cette information pour aller jusqu'au bout du projet. Mais quand même, à la fin, en général, on les rencontre.
Bah, j'espère bien. Et puis, il peut y avoir des bugs aussi en cours de route. Alors, vous préparez souvent vos interventions avec Venedia Carrara, ma collaboratrice qui travaille extrêmement bien sur cette émission. Et elle me disait, en petite histoire, vous avez eu le cas d'une table très très belle, mais visiblement qui résistait pas quand on s'appuyait dessus. C'est un peu embêtant, surtout quand on a affaire à des clients très fortunés, j'imagine, très exigeants.
Oui, alors tout client a le droit d'être exigeant. Et en l'occurrence, nous avons adapté une table qui avait été dessinée mais jamais produite. Et notre client était une personne relativement âgée qui devait pouvoir s'appuyer sur sa table pour se lever. Et donc, quand la table est arrivée, malgré les prototypages et les tests, j'ai remarqué que le plateau bougeait légèrement. Donc, de nouveau, mon équipe m'a filmé en train de faire la démonstration, a envoyé la vidéo à l'éditeur et au designer. Et j'avais déjà rencontré le designer qui se dit « Mais quelle est cette archi qui me fait des vidéos en s'appuyant sur une table ?» Et donc, chose qu'il ne fait jamais, il est venu sur site voir cette table pour l'adapter. Et nous sommes devenus amis et il sera probablement le designer de ma future maison d'édition. Donc, l'histoire est assez jolie en soi.
Ah bah ouais, c'est des rencontres quand même. Juste un dernier mot, Amandine, parce que vous le disiez quand j'ai dit ils sont d'autant plus exigeants et vous dites en fait tout le monde est exigeant. Mais presque finalement, j'ai envie de prendre le contre-pied de ce que je disais, c'est... À quel moment ils le sont peut-être aussi même un peu moins et ça vous oblige, vous, à être d'autant plus à fond sur ce que vous allez faire et à anticiper tout, mais tout dans les moindres détails?
Alors en fait, ils sont très exigeants sur l'unicité, sur l'excellence, sur l'idée. Et ils sont extrêmement tolérants sur le temps nécessaire parce que finalement, pour avoir d'excellentes idées, le temps incompressible de la réflexion est le luxe qu'ils peuvent s'offrir.
Bon, je vais vous poser une question piège pour terminer. Vous préférez bosser avec quel type de client? Ceux qui vous donnent un budget de 3-4 millions d'euros en vous disant « faites ce que vous voulez, mais faut que ça me plaise à la fin, quitte à ce qu'on se rencontre jamais » ou des gens qui ont un budget plus serré, mais qui sont très, très, très impliqués au quotidien?
En fait, dans les deux cas, ils sont impliqués et je vais faire une réponse qui serait un peu entre deux, qui est simplement que moi, le client idéal, c'est un client qui est esthète, qui est passionné et qui partage avec nous. Et quand nos clients ont des passions dans lesquelles ils nous emmènent, à travers l'architecture, mais l'architecture devant un prétexte à la mise en valeur de leur passion, in fine, ce sont les plus belles rencontres.
Bah, c'était très beau de nous dire ça, Amandine. Merci pour votre témoignage. Amandine Marotto, fondatrice et PDG d'Atelier Compostelle. Mais oui, l'architecture d'intérieur, c'est splendide. Ça l'est d'autant plus quand on a des gros budgets. Mais même avec des petits budgets, n'hésitez pas à appeler Amandine. On mettra son numéro de portable. Non, je plaisante, Amandine, si elle est encore en ligne avec nous. Mais si, comme Amandine, vous avez des témoignages à nous apporter à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO, ça tombe bien. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Il y a Alban qui a trouvé en régie qui me dit « Et maintenant, on défisque, ça pourrait être notre nouveau jingle à chaque fois qu'on a notre dieu de choc de la fiscalité. » À mes côtés, Stéphane Descartiers pour SD Conseil et Formation et Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Marie.
On
bonjour
a souvent
tous.
Pas mal de sujets à éplucher tous les trois. On va démarrer par les municipales, vous inquiétez pas. C'est terminé. Mais justement, c'est terminé. On est dans une nouvelle ère qui démarre, et notamment à Paris, puisque ça faisait quand même partie des élections les plus suivies. Alors, il y a deux éléments clés qu'on va aborder. La première chose dont on voulait parler, Jean-Pascal, c'est la taxe sur les logements vacants. Ça va changer à Paris. Ou ça a changé ça... Non, ça va changer.
Ça va changer.
Ouais,
hein.
C'est-à-dire ?
Alors, effectivement... On l'avait évoqué dans cette émission déjà, la taxe sur les logements vacants, elle a été réformée, elle a été fusionnée avec la taxe d'habitation sur les logements vacants.
Ça, c'était dans le cadre du projet de loi de finances, c'est
exactement,
ça?
Exactement, dans le cadre du projet de loi de finances. Et Paris, la ville de Paris s'empare de cette réforme, dont elle était demandeuse au départ, hein, puisque cette réforme permet d'augmenter les taux de la taxe sur les logements vacants, de les passer... Au lieu de 17,34, on peut monter jusqu'à 30,60. Donc 60%, c'est quand même énorme. Et la municipalité a indiqué qu'elle comptait bien aller jusqu'à ces 60% le plus vite possible pour assommer les propriétaires qui se permettraient de ne pas mettre leur logement vacant en location. Donc c'est un point qui est important parce que ça peut être très lourd. Hein. 60%, c'est le triple d'une taxe foncière. Hein,
donc, ouais, mais du coup, comment on fait? Donc si je mets mon bien qui était vacant à la location, là, j'ai plus du tout ça, on est d'accord?
On est bien d'accord. on est bien d'accord, mais on n'a pas toujours envie de mettre son bien en location, ou pas toujours la possibilité, parce que pour mettre son bien en location, il faut d'abord faire les travaux nécessaires, ça peut s'avérer très coûteux. Et puis, il faut pas avoir de problème d'indivision, il ne faut pas avoir de problème décisionnel, il ne faut pas avoir besoin du logement, même de manière ponctuelle. Donc, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il n'y a pas tant de logements vacants que la mairie le sous-entend, malgré tout.
Ah bon hein, alors après, ils disent vacants et sous-utilisés.
Voilà. Ouais. Hein. Et si on reprend les chiffres, c'est 300 000 sur 1,4 million. Donc ça réduit. Et on va arriver à des montants incompressibles. Donc moi, je m'interroge un petit peu sur le pourquoi du comment. Et surtout, comme j'aime le dire, pour faire avancer un âne, il faut une carotte et un bâton. Et
là, il y a le bâton.
Voilà,
le bâton
est toujours le bâton, au bout d'un moment, l'âne, il finit par mourir. Et tout le monde est perdant.
Question quand même, Jean-Pascal, on fait quoi dans ces cas-là? C'est-à-dire que vous conseillez plutôt de faire les travaux si c'est nécessaire pour le mettre à la location, le bien qui était officiellement vacant, de le vendre? C'est quoi votre...
Et bien sûr, on met la situation à plat. Si on peut le louer dans des conditions correctes, ce qui est difficile à Paris avec l'encadrement des loyers, mais si on peut le donner des conditions correctes, bien sûr, il faut le mettre en location. C'est le but de cette politique, hein, pourquoi ne pas la suivre? Ça peut fonctionner. Si on ne peut pas, il faut vendre. Et si on vend, on risque de faire baisser les prix de l'immobilier à Paris. Si les prix de l'immobilier baissent, ça veut dire que les propriétaires seront plus pauvres. Si les propriétaires sont plus pauvres, et c'est toute l'économie derrière qui descend. Donc, c'est un peu un cercle vicieux quand même.
Mais globalement, ça se calcule quand même, ça se mesure.
Bien sûr, ça se mesure, évidemment.
Puis après, vous parlez de l'encadrement des loyers, ne me faites pas ça, Jean-Pascal, parce qu'en l'occurrence, les logements vacants, s'ils nécessitent énormément de travaux, c'est qu'ils ont peut-être été achetés il y a longtemps, donc en l'occurrence, entre le prix payé il y a 15 ou 20 ans, voire plus, hein, pour les personnes âgées propriétaires de logements vacants, qui ont payé ça, alors une bouchée de pain, je vais pas le dire comme ça, mais un peu quand même, même avec l'encadrement des loyers, la rentabilité sera au rendez-vous quand même.
Alors ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se permettre de baisser la rentabilité des logements lorsque l'immobilier est en hausse, parce que les propriétaires peuvent se dire qu'ils vont rester propriétaires. À défaut que ce soit rentable, ils seront gagnants à la revente.
Ouais.
Mais quand on se retrouve dans un marché baissier, ce qui est le cas depuis quelques années, et qu'on poursuit cette politique, on risque de se retrouver un peu pris en fourchette, comme on dit aux échecs, et plus personne ne voudra garder de logement. Donc, c'est comme tout.
On est d'accord, Jean-Pascal, mais encore une fois, tout dépend le prix que vous avez payé. Je rappelle, hein, aujourd'hui, on est autour de 9 700 € du mètre carré à Paris. 9 700 €, la plupart des logements vacants aujourd'hui sont des biens qui ont été achetés il y a très longtemps. Donc, encore une fois, la plus-value, elle se mesure à l'aune de ce qu'on a payé au départ. On est d'accord?
On est d'accord pour ceux qui les ont achetés à cette époque-là. Il y a aussi des gens qui les ont achetés plus récemment en mauvais état ou qui en ont hérité.
Ah oui, là c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, vous faites vachement bien la bascule sur cette question d'héritage. Ce qui m'envoie vers l'autre sujet parisien que vous voulez porter ce midi, Stéphane. Alors oui, on peut hériter ou alors on peut essayer de donner discrètement. Parce que ça se passe comme ça à Paris quand on n'a pas d'héritier. Il arrive qu'on essaye de vendre à quelqu'un qu'on aime beaucoup avec un prix défiant toute concurrence. Mais Vlatipak, ce serait pas une donation déguisée?
Eh oui, c'est très très dangereux. Donc attention.
Attends. Je regarde en plus Jean-Pascal de l'autre côté qui est alors.
Oui, ça, tous les ans, il y a des gens qui se font attraper avec ça et c'est très très compliqué, très douloureux. Il y a des amendes qui pleuvent, etc. Mais surtout, effectivement, ça amène à faire des cadeaux en définitive à la ville de Paris. Le problème,
alors vous allez expliquer pourquoi c'est un cadeau, oui, final à la ville de Paris quand même.
Bien sûr. Alors le problème, c'est que la France a les frais de succession ou de donation les plus élevés au monde, hein, à part le Japon et la Corée qui ont le même système. Donc on est champion du monde. En gros, même de parents à enfants, hein, donc on a 100 000 d'exonération. Après, au-dessus de 120 000, c'est 20%. 120 000, hein, ça fait quand même pas grand-chose. On redonne 20%. Au-dessus de 550 000, on donne 30% de parents à enfants. Hein. Et alors après, au-dessus de 900 000, 40%, etc. jusqu'à 45%. Le pire, si par exemple, vous donnez un neveu ou une nièce, les gens qui n'ont pas d'enfants notamment, sont des neveux, des nièces qu'ils aiment bien, donc ils voudraient... Là, c'est 55% direct.
Ouais, n'aimez pas vos neveux et nièces.
Là, 55%, enfin, vous avez un pauvre abattement de 8 000 €, et ensuite, c'est 55% direct. Donc, la tentation de sous-estimer pour vendre effectivement à des gens qu'on aime bien, un neveu, ou parfois les gens font des OBO, vous savez, des rachats soi-même. On fait la SCI avec les enfants, et puis pour les avantager, comme ils sont majoritaires dans la SCI, on met un prix en dessous du marché, pour pouvoir, voilà.
J'aime bien parce qu'il dit ça comme si c'était pas grave. Hein.
Donc, bon. Oui, alors, Mais la tentation est grande. Il y a, tous les ans, encore une fois, il y a des gens qui se font retoquer là-dessus. Donc, alors, voilà. Donc, il y a cette tentation, mais c'est extrêmement dangereux. C'est très, très dangereux.
À plus d'un titre.
Vous avez un bien qui vaut 500 000 euros, vous le vendez à 350 000 euros, par exemple. C'est extrêmement dangereux. Déjà, parce que on n'a pas le droit. C'est une donation déguisée. Hein, donc vous pouvez faire, vous pouvez être rattrapé sur la différence avec le véritable prix en termes de droit, et donc ça peut faire mal. Vous pouvez être rattrapé sur les frais de mutation aussi, parce qu'il y a un manque à gagner.
Mais j'allais vous dire, le notaire il tique pas à la fin quand même. Si effectivement, admettons, puisque là on est focus Paris, hein, admettons qu'à Paris j'ai un bien qui vaut 800 000 euros et que j'arrive pour le vendre à mon neveu à 500 000.
Oui. Oui, enfin le notaire parisien peut peut-être tiquer, mais le notaire du Loir-et-Cher ou de Vesoul, il va peut-être pas se dire bon voilà le marché, vous lui dites il y a beaucoup de travaux.
C'est très sympa,
etc.
pour les notaires de Vesoul.
Donc ça se pratique. Et donc déjà c'est interdit, c'est dangereux, vous pouvez vous faire attraper par les droits. Surtout que maintenant c'est plus des gens qui c'est plus à Bercy des gens qui contrôlent comme ça à la main. C'est les ordinateurs qui font le boulot quand ils voient passer. Dans une ville, dans une rue, dans un immeuble où les ventes se font à 5 000, s'ils voient passer une vente à 3 000, ça s'allume et tout. Attention, il y a un problème. Mais c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que si vous faites une donation de ce type, enfin une vraie fausse donation, une vente à vil prix entre guillemets à Paris. Là, à Paris, vous avez quand même un petit problème parce qu'il y a le droit de préemption. C'est dans toutes les communes. C'est-à-dire que le notaire, quand vous passez votre compromis avec votre cher neveu ou votre chère nièce, il envoie la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner à la mairie. Et monsieur Grégoire, quand il voit passer un bien à 500 000 euros vendu 350 000 euros,
il l'achète,
c'est lui qui l'achète, bien entendu. Vous savez qu'à Paris, le premier investisseur à Paris, c'est Paris.
Ah oui.
Et de loin. C'est d'ailleurs le dernier investisseur en logement. C'est Paris. Hein, ils ont préempté quand même Madame Hidalgo.
Ah non, il y a le neveu de Stéphane Descartier aussi.
Ils ont quand même préempté pour plus de 2 milliards d'euros de logements là, sur les trois dernières années. Et M. Grégoire a dit qu'ils allaient continuer, etc., pour transformer en logement social, etc. Donc, bien entendu, quand ils voient un bien passer nettement sous-évalué, ils le prennent. Et donc là, la super affaire, c'est pas votre neveu qui l'a fait, c'est M. Grégoire. Et là, vous pouvez pas dire « Ah oui, mais alors attendez, on a lu, non, parce qu'en fait, c'était pour avantager votre neveu, parce que alors là, en plus, on vous dit « Ah, mais en plus, vous avouez que vous vouliez tricher, etc. » Donc, vous êtes dans la nasse. Le super cadeau, c'est effectivement la ville de Paris qui le fait. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Une fois que le compromis est parti, effectivement, à la mairie, c'est mort. Donc, attention. Déjà, c'est très risqué. Et ensuite, vous pouvez vous faire souffler l'affaire, etc. Et la bonne affaire, c'est pas votre neveu, vos enfants en OBO qui la font. C'est effectivement la mairie. Mais d'une certaine façon, alors la mairie de Paris...
Franchement, je vais être méchante. Alors après, je vais me prendre encore des mails incendiaires, mais c'est de bonne guerre. Vous essayez de jouer avec le fisc.
On joue.
Tant mieux si ça fait un cadeau à la mairie de Paris et si ça profite au logement social. Et bim, 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 je vais me prendre beaucoup.
Effectivement, vous parliez des plafonds de loyer tout à l'heure.
Ouais.
Effectivement, à Paris, il n'y a pas le choix. À Paris, on l'avait déjà dit, il n'y a plus aucun investisseur privé. Il y a un excellent article de Anne Rovan dans le Figaro, là, cette semaine, qui interview plusieurs propriétaires bailleurs, tout le monde se barre. À Paris, il y avait encore, au début des années 90, plus de 600 000 logements dans le parc locatif privé, dont les institutionnels.
Ouais.
Aujourd'hui, ils sont tous partis, il n'y a plus aucun investisseur privé. Donc, la mairie n'a pas d'autre choix, en définitive, municipaliser, en quelque sorte,
le logement. Et pour dédouaner la mairie, il y a aussi un sujet sur nos dispositifs d'aide à l'investissement locatif. Je suis désolée, mais en fait, à chaque fois qu'on nous pond un truc, c'est jamais valable à Paris. Là où on manque cruellement de logements et on n'arrive pas à inciter les gens à investir. On parlera en fin d'émission de notre nouveau Jeanbrun. Mais enfin, faire du Jeanbrun à Paris, que je sois dans l'ancien, évidemment, toujours
aucun
pas.
Intérêt.
Mais quand même, quoi. Enfin, à un moment donné, on est vraiment la parfaite illustration de la crise du logement, et là où elle est la plus vive, c'est bien à Paris, et on n'a que du bâton et effectivement pas de carotte, dommage.
On parlait des logements privés, des logements vacants tout à l'heure, effectivement, mais aujourd'hui, Paris, on l'avait déjà dit, c'est 3-2-1-0. C'est-à-dire que le plafonnement des loyers vous donne du 3% brut, moins vos charges, vos taxes foncières, vos frais de gestion, vous tombez à 2%, moins les impôts, si vous êtes à 30, vous tombez à 1%, si vous êtes à 41, vous tombez à moins de 1%, quand tout se passe bien.
Ouais.
Et si vous êtes à l'IFI, ça vous coûte de l'argent de louer à Paris. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers de logements, soi-disant vacants, Ça, on est d'accord.
Non, mais c'est pour ça que je dis sous-occupé. On va rendre. Quand même, ils le disent souvent dans leur présentation. Ils disent vacant. Et puis après, ils font le distinguo entre ce qui est véritablement vacant et ce qu'on considère comme étant sous-occupé. Juste d'un mot, Jean-Pascal, je risque quoi, cette donation déguisée, avant que la mairie de Paris en profite, je veux dire?
Alors, si c'est la patrouille qui vous rattrape, c'est la patrouille fiscale. Vous risquez un redressement, effectivement, en droit de donation. Et si c'est un neveu, ça tape à 55%, donc ça tape très fort.
Ouais.
Vous risquez aussi que l'acte, effectivement, soit écarté par l'administration, qui utilise la procédure d'abus de droit avec une majoration de 80%. Donc ça peut faire très très mal. Et puis, il y a une loi dont je parlerai peut-être tout à l'heure sur la répression de la fraude fiscale qui vient de passer, qui vous dit que dès que vous avez 100 000 euros de redressement en droit, même si l'administration n'a mis aucune pénalité, transmission automatique au procureur de la République. Donc peut-être un petit passage en prison pour le plaisir. Donc vous risquez gros quand même.
Oui, ouais. Donc n'ayez pas peur d'Emmanuel Grégoire, ayez un tout petit peu plus peur quand même du fisc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, encore une fois, hein, voilà, je sais que ça fera pas plaisir à certains ce que je dis, mais en fait, quand on fait une donation déguisée, on est dans l'illégalité. Mmh. Donc à un moment donné, je veux dire, le moindre mal, ce serait vraiment que la mairie de Paris s'en saisisse, plutôt que le fisc qui là vous coûterait encore plus cher. Bref.
Oui, on n'est jamais plus malin que les impôts. Hein.
Non,
ça, il faut bien se le dire, surtout avec les moyens maintenant de automatiques par effectivement comparaison automatique qu'ils font pour chaque vente. Donc là, aujourd'hui, on peut plus effectivement contourner les trucs comme ça. C'est plus possible.
Oh, et puis bon, si vous avez un doute, appelez les professionnels du droit, ça peut aider quand même. Bon, du coup, là, on a parlé focus mairie de Paris. On va essayer d'élargir un tout petit peu le scope. Et d'ailleurs, vous parliez de ce projet-là. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne un petit coup en arrière parce qu'on devait le faire la fois dernière. On n'avait pas eu le temps, Jean-Pascal, sur nos évolutions législatives. Donc, on a toujours un PLF. Vraiment, je vous jure, hein, le projet de loi de finances a vraiment été voté en février. Et il y avait d'autres changements dont on avait assez peu parlé, mais sur lesquels vous vouliez revenir. Donc c'est un, la taxe sur les holdings, et deux, des changements sur le mécanisme d'apport-cession.
Oui, effectivement Marie. Alors ce sont deux points qui touchent indirectement le secteur immobilier et pas dans le bon sens. Donc il faut quand même l'évoquer.
C'est étonnant.
Alors on va commencer effectivement par le mécanisme d'apport-cession. Alors le mécanisme d'apport-cession, c'est un mécanisme qui est bien connu des chefs d'entreprise, qui permet en fait, lorsque l'on vend sa société, d'obtenir une exonération de la plus-value si on s'engage à réinvestir le produit dans l'économie. Voilà. C'est un système qui a été durci, ça c'est pour le détail, mais en plus, on en a écarté l'immobilier, les activités immobilières. Ça veut dire que dans l'immobilier qui a une certaine valeur, les investissements de projets immobiliers, une des sources de revenus, c'était justement ces chefs d'entreprise qui réinvestissaient la vente de leur entreprise dans ces secteurs-là, et ben c'est terminé. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, et c'est depuis le 1er janvier.
Ouais.
Et puis effectivement, on a la taxe sur les holdings. Alors, on a beaucoup parlé, cette taxe sur les holdings avec un taux de 20%. Ouais. Et là encore, on considère qu'il y a certaines activités qui sont improductives, et l'immobilier en fait partie, plus particulièrement lorsqu'il est mis à disposition des associés.
Ouais.
Alors là aussi, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Ça touche en principe les sociétés à l'impôt sur les sociétés et pas à l'impôt sur le revenu. Mais si vous êtes riche et que vous avez, par exemple, un bel hôtel particulier à Paris qui vaut quelques millions et que vous l'avez mis dans une société parce que c'est quand même plus pratique pour le financier, mais que l'usage de cet immeuble, c'est d'être mis à disposition des associés parce qu'ils vivent dedans, tout simplement, et ben là, il faut être extrêmement prudent parce que si jamais il est mis à disposition meublé, et bien souvent, c'est meublé, vous allez avoir une requalification par l'administration fiscale de la société qui veut dire que c'est une société à l'impôt sur les sociétés. Puisque c'est une société à l'impôt sur les sociétés, eh bien, elle est sujettée à la taxe sur les holdings. Et si vous avez plus de 5 millions d'immobilier, c'est 20% par an repris sur 3 ans, 60%. Alors disons par exemple que l'hôtel particulier valait 5 millions, 3 millions de redressement. Merci, catastrophe, enfer.
Alban me dit, vaut mieux avoir un bon comptable. Ou alors le numéro de Jean-Pascal.
Voilà. Donc voilà, je veux juste attirer l'attention des gens sur ce changement qui est très récent et qui peut changer les habitudes de beaucoup de familles fortunées sur Paris.
Et puis d'un mot, juste Jean-Pascal, puisque vous parliez aussi de ce projet de loi de lutte contre la fraude, il n'est pas encore définitivement adopté, je crois, ça a été là par le Sénat.
Il a été voté, alors à ma connaissance, par l'Assemblée nationale, mais maintenant il va rentrer en commission
en
mixte,
CMP,
et ça peut changer. Et effectivement, ce projet, il y a deux choses. D'abord, comme je l'ai évoqué, dès que vous avez 100 000 euros de redressement, c'est transmis immédiatement au procureur, même si l'administration estime que vous n'êtes pas fautif qu'elle n'a pas mis de pénalité.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est assez sévère, je trouve. Une deuxième chose aussi...
Le notaire et les SCI.
Voilà. Quand on vend une société, une société immobilière à prépondérance immobilière, alors le plus souvent les SCI, maintenant les cessions de parts devront automatiquement et systématiquement être faites devant notaire ou par acte d'avocat. Donc, il y avait un...
C'est une bonne nouvelle pour vous, ça, alors, Jean-Pascal
On ne peut plus les faire sous un privé, sur un compte table,
voilà,
comme ça.
Voilà, on ne peut plus le faire sur un bout table. Alors que ça se faisait auparavant, il y avait des jurisprudences partagées sur la question. Maintenant, c'est gravé dans le marbre. Donc, un peu plus de formalisme.
Il fait la tête, Stéphane.
Un grand bonheur pour les professionnels du droit et pour la bureaucratie en général. Et un petit coup de poignard de plus pour l'économie.
Mais quand même, un peu de business pour Jean-Pascal.
Juste sur les apports cessions, Jean-Pascal, est-ce que, par exemple, si on réinvestit dans des hôtels, murs et fonds, est-ce que c'est considéré aussi comme...
C'est pas évident.
Ouais,
Effectivement, on est vraiment dans une hôtellerie professionnelle, qu'on peut vraiment justifier, qu'on est encore dans BIC, pourquoi pas. Mais tout ce qui est gestion immobilière, même à des fins locatives, c'est terminé.
Messieurs, il nous reste 1 minute 30 top chrono pour lancer la saison de la déclaration. Mais oui, ça y est, on rentre dedans. Qu'est-ce qu'il faut que je déclare? Qu'est-ce que j'ai pas encore à déclarer? Je pensais aux gens bruns. Effectivement, non, c'est pas maintenant, c'est l'année prochaine, c'est ça. Enfin, en gros, qu'est-ce qui, sur quoi les petites alertes là de ce que je vais devoir déclarer lié à l'immobilier, évidemment.
Attention à vos déficits fonciers, notamment pour des travaux qui pourraient être plus ou moins payés en espèces, etc. Il y a une jurisprudence récente qui montre que pour qu'un déficit soit parfaitement acquis, un déficit foncier notamment, il faut non seulement bien sûr fournir les factures, mais fournir la preuve du paiement.
Bah oui.
Hein, il y a encore eu dernièrement un investisseur qui s'est fait retoquer sur du gros déficit parce que visiblement il avait les factures mais il n'avait pas virement, etc. Donc on peut imaginer qu'il y avait eu une partie effectivement en espèces, etc. Donc voilà, genre de petites choses et puis voilà, surtout les travaux notamment
taxes foncières déductibles aussi.
Oui,
à chaque fois, qui m'avait dit, je crois que c'est vous Jean-Pascal l'autre fois, qui m'avait dit les gens oublient
de déduire leurs taxes foncières, bien sûr.
Ouais. Oui, alors les petites alertes, d'abord, vérifiez bien les dates, ne vous faites pas surprendre, surtout si vous avez une société, une SCI. Il faut
c'est quand la déclaration?
Eh bien, c'est le 20 mai pour la 2072 de la SCI, et tant que vous n'avez pas fait la SCI, vous ne pouvez pas faire votre propre déclaration, qui sera dans la foulée, début juin. Hein. Donc ça, c'est le premier point qui est important, surveillez bien les dates. Deuxième point, faites bien vos calculs, notamment si vous êtes en micro-foncier. Systématiquement, les gens se déclarent en micro-foncier parce que c'est plus simple avec l'abattement de 30%. Mais bien souvent, si vous faites les calculs de charges avec la très faible rentabilité de l'immobilier, vous avez vraiment intérêt à déclarer en réel.
Et ça c'est ce que me dit Alban. Il me dit en réel, c'est mieux, en réel, et c'est mieux. Non, mais Alban est à fond. Je vais faire participer Alban à nos émissions. Alban, si tu m'entends. Mais donc on donne le coup d'envoi des déclarations. Juste un mot, messieurs, il faut que j'arrête là, mais déclarer mes biens immobilier.com, là vous savez, la fameuse plateforme machin, c'est il faut que je le fasse là, il n'y a pas de mandat spécifique.
Si, il faut le faire là. Au moment de la déclaration de revenus, vous mettez à jour effectivement l'occupation des biens, c'est très important.
Et Stéphane dit faut pas le faire, non.
Résistance.
Merci Stéphane Descartes, SD Conseil et Formation, et Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats. Et merci Alban d'être participant actif à cette émission au quotidien. Et merci à vous de nous suivre. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.